entendu ? Contre l'Allemagne !
Bonsoir, bienvenue dans le fil de l'histoire. Aujourd'hui, à l'occasion de la commémoration du 11 novembre, nous nous posons cette question. Loin de Verdun, en quoi la Première Guerre mondiale fut-elle mondiale ? Si je vous dis Première Guerre mondiale, c'est probablement à la bataille de Verdun et à l'enfer de ses tranchées que vous pensez en premier. Normal. Cette bataille, l'unique où les Allemands et les Français seuls se sont affrontés, fut la plus longue de la Grande Guerre. Celle qui, pour nous Français, dans notre mémoire collective et familiale, symbolise le plus l'héroïque sacrifice des poilus, mais aussi l'absurdité que peut avoir la guerre. La bataille, qui avec celle des Flandres et de la Somme, est une des plus meurtrières du front de l'Ouest. Ce front qui s'étend de la mer du Nord à la frontière entre la France et la Suisse. Pourtant, loin du front de l'Ouest, la Première Guerre mondiale, comme son nom l'indique, fut mondiale. D'abord, bien sûr, par le nombre de belligérants, qui pour la première fois de l'histoire sont entrés progressivement dans le conflit. Mais mondiale aussi, parce que cette guerre, géographiquement, fut éclatée sur de multiples fronts, parfois à des milliers de kilomètres les uns des autres, dispersés sur plusieurs continents. Des fronts lointains, considérés parfois comme périphériques et dont on ne parle jamais. En Europe, on s'est battu aussi dans les Alpes, en Prusse orientale, en Russie, au Caucase, mais aussi dans l'Empire ottoman, au Moyen-Orient, en Mésopotamie, en Palestine, et même en Afrique, en Extrême-Orient et en Océanie. Qui aujourd'hui en France se souvient des Dardanelles, de Tannenberg et Broussilov sur le front russe, de Caporetto en Italie, de Romanie dans le Sinaï, de Salonique en Grèce, de Tsingtao en Chine ou de Tanga en Afrique orientale? Sur tous ces théâtres d'opérations, montagnes enneigées, déserts arides, forêts équatoriales, sur les mers et sous les mers, des millions d'hommes se sont battus et sont morts du début de la guerre en août 1914 jusqu'à l'armistice de 1918 et même parfois au-delà. Des batailles dont on parle peu en France, mais qui, comme Verdun, la Marne ou la Somme, constituent des tournants historiques et des lieux de mémoire. C'est de quelques-uns de ces combats oubliés, de leurs combattants et de leurs enjeux que nous allons parler ce soir. Avec vous, Michaël Bourlet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, spécialiste de la Première Guerre mondiale et auteur de « La Grande Guerre hors des tranchées » publié chez Perrin.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Article 1er, la mobilisation générale est décrétée.
Le 28 juin 1914 à Sarajevo, l'archiduc François Ferdinand, prince héritier de l'Empire austro-hongrois, est en visite officielle dans la capitale de la Bosnie-Herzégovine lorsqu'un certain Gavrilo Princip, jeune étudiant serbe de Bosnie et nationaliste exalté, déterminé à frapper au cœur la monarchie qui a annexé son pays 6 ans plus tôt, surgit de la foule, se jette sur la limousine qui transporte l'archiduc et son épouse et tire 2 coups de pistolet qui vont sceller le sort du couple impérial, mais aussi celui de la paix en Europe et dans le monde. Persuadé que ce sont les services secrets serbes qui ont armé l'assassin, l'Autriche-Hongrie lance un ultimatum à la Serbie. Et 5 jours plus tard, le 28 juillet, malgré des tentatives de médiation, le vieil empereur François-Joseph déclare la guerre à la Serbie. Dans la journée, les premiers combats débutent à la frontière des deux pays. La Serbie est l'allié de la Russie qui mobilise. L'engrenage de la Première Guerre mondiale est en marche. 2 grandes alliances vont s'opposer. Celle de la France, le Royaume-Uni et la Russie qui forment ensemble la Triple Entente. Et en face, les empires centraux d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie. 2 camps auxquels se joindront bientôt d'autres pays d'Europe. Au fil des années, 22 pays seront engagés dans le conflit. Plus de 60 millions de soldats y prendront part, dont près de 10 millions trouveront la mort. 21 millions seront blessés, sans parler des près de 9 millions de morts civiles.
Les hommes pour la cavalerie légère, par ici! Ceux qui veulent s'engager dans cet arc d'élite, envolez-vous! Votre pays a besoin de vous, et vos camarades aussi ont besoin de vous.
Comment se fait-il qu'un attentat à Sarajevo visant à renverser l'ordre autrichien en Bosnie-Herzégovine, donc à première vue une crise locale entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie, comment cette crise peut-elle, par une réaction en chaîne, provoquer en quelques semaines seulement une guerre qui va devenir européenne et bientôt mondiale ?
L'attentat est juste un petit événement. Il n'y a aucune raison, en 1914, pas plus que quelques années auparavant, que les pays européens se fassent la guerre. Et pourtant, cet attentat va déclencher finalement la Première Guerre mondiale et va provoquer un traumatisme comme jamais on en avait eu en Europe. Alors pourquoi ? Eh bien, l'Europe en 1914, c'est un monde qui paraît uni. L'Europe domine le monde. Elle domine le monde au plan démographique, elle domine le monde au plan économique, au plan politique. Mais c'est un monde qui est prospère, mais c'est un monde aussi qui a des diversités. Une Europe pleine au nord, une Europe creuse au sud, une Europe industrielle, une Europe...
Qu'est-ce que ça veut dire pleine et creuse ?
Creuse, ça veut dire une Europe qui, en termes démographiques, est en baisse ou en difficulté, alors qu'au nord, on a une Europe industrielle, riche, prospère et... avec une densité de population très forte. Et donc, on a toutes ces différences entre l'Europe aussi libérale, l'Europe autoritaire. Mais il n'empêche que ces pays vivaient tout de même ensemble sans se faire la guerre depuis près d'un siècle. Et même si les tensions se sont accrues depuis le début du XXe siècle, hein, tout ça explose en juillet 14. Alors, ces tensions, elles sont nombreuses. Hein. Il y a, vous l'avez dit, le système des alliances qui fait que, mécaniquement, tous ces pays vont venir aider l'autre. Voilà. Il y a les rivalités coloniales, il y a les rivalités économique qui crispe les relations entre ces pays. Ce qui est important de préciser aussi, c'est qu'en 1914, aucun pays ne veut véritablement faire la guerre avec son voisin. Mais en revanche, chaque pays pense que son voisin veut lui faire la guerre. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est déterminant dans dans la course vers l'abîme. Voilà. Alors, dans l'immédiat, la guerre qui se déroule, dans un premier temps, entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie, c'est juste une guerre très localisée. Et même, je dirais même que la plupart des pays européens, quand on lit la presse, sont plutôt favorables à l'Autriche-Hongrie, qui a vu son héritier, en fait, se faire assassiner. Mais c'est le jeu des alliances qui va précipiter l'Europe dans la guerre. L'Allemagne qui dit à l'Autriche-Hongrie, qui donne carte blanche à l'Autriche-Hongrie, la Russie qui soutient les Serbes, et en fait, ensuite, on a un système d'alliance qui se met en branle. On ne peut pas dénoncer une alliance et on entre dans ce cercle dramatique.
Voilà. Et comment va-t-il y avoir 22 pays engagés dans cette guerre ?
Alors, les pays européens, déjà, entrent en guerre. Il y a des systèmes d'alliances qui s'opèrent. On parle toujours de l'Angleterre, on parle toujours de la France, mais aussi il y a d'autres pays qui sont autour. La Belgique entre en guerre. Elle n'est pas dans un camp, mais elle est attaquée. Donc, sa neutralité est violée, donc elle entre en guerre. Il y a des pays qui entrent en guerre plus tard. Le Portugal, par exemple, et puis
l'Empire ottoman.
L'Empire ottoman qui entre en guerre plus tard,
mais
on est dans un petit espace-temps de quelques semaines, quelques mois, hein, un peu plus tard pour le Portugal. Et puis ensuite, on a tous les pays du monde, je dirais, de l'Afrique et de l'Asie, qui sont des pays colonisés et qui, de facto, entrent en guerre lorsque le pays colonisateur entre en guerre aussi.
C'est parce que tous ces pays donc européens sont des pays coloniaux, ce sont des puissances coloniales.
Ce sont des puissances coloniales et les rivalités coloniales sont très importantes dans les raisons du déclenchement de la guerre. Alors, pas seulement le seul élément, mais elle joue un rôle important.
Et les États-Unis en 1917 entrent dans la guerre, tandis que les Russes en sortent.
En sortent, oui. Mais quand les États-Unis entrent en guerre en 1917, ça c'est important de le préciser, quasiment tout le continent américain entre en guerre.
Et pourquoi Michael Bourlet parle-t-on de fronts principaux et de fronts périphériques ? Qu'est-ce qui les distingue ?
Le front de l'Ouest, celui de France, c'est le plus important parce que c'est là où doit se jouer l'issue de la guerre. Si l'un des deux camps perd, il a perdu la guerre. Donc c'est pour ça qu'on parle de front important, de front centraux, je dirais, parce que c'est là où doit se décider la guerre. Mais il n'empêche que les fronts périphériques jouent un rôle important, parce que les Européens, pour pouvoir continuer la guerre, ont besoin d'approvisionnement. Donc les approvisionnements viennent d'outre-mer, ils ont besoin en fait de passage, le canal de Suez est un enjeu par exemple. Donc oui, on parle de fronts centraux parce que c'est là où doit se décider la guerre, elle a commencé en Europe, mais n'empêche que tout autour, eh bien le reste du monde joue un rôle important pour que ces pays qui se battent sur les fronts centraux puissent continuer la guerre.
Oui, on va voir d'ailleurs que cette guerre qui débute dans les Balkans va terminer aussi dans les Balkans, on le verra un peu plus tard.
Oui, tout à fait, oui.
Dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. L'espoir dans le matin bleu, soudain, vacille et chancelle. Comment sommes-nous venus là? Qui nous a égarés là? Nous n'avons fait qu'obéir, nous n'avons pas su choisir. Poussière d'or dans le ciel bleu, tombe en pluie devant nos yeux. faudra-t-il de peine avant que la joie revienne? Tout ira de mieux en mieux, tout sera si merveilleux. Quel doux chant, quel joli rêve, quel doux miel à nos lèvres. Poussière d'or dans le ciel bleu, tombons pluie devant nos yeux. Au cadran, les heures s'abîment, à l'horizon, rien ne brille. Aube froide et vent mauvais pourrait nous assassiner. Demeurons côte à côte, avançons l'un contre l'autre. Poussière d'or dans le ciel bleu, tombons pluie devant nos yeux. L'espoir si au matin bleu, comme l'eau aux lacrymogènes. Le chemin semble sans fin, de quoi sera fait demain? De garder la foi, quelle chance d'être quelquefois aveuglé par son ardeur, inondé par sa blancheur.
Stéphanie Duncan, le fil de l'histoire.
En avant! En avant! Allez, camarades! À l'attaque! À l'attaque!
C'est la Russie, alliée de la Serbie, de la France et du Royaume-Uni, qui la première entre dans la guerre. Une guerre qui va l'opposer à trois empires, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et bientôt l'Empire ottoman. Le 30 juillet 1914, le tsar décrète la mobilisation générale et du même coup enclenche le mécanisme des alliances. Ce que nous, Français, appelons le front de l'Est, qui est plutôt à l'ouest pour les Russes, s'étire sur pas moins de 2000 km du nord au sud. Dès le début août, l'armée russe, emmenée par le tsar Nicolas II, lance une grande offensive au sud-ouest sur l'Autriche-Hongrie et au nord-ouest sur la Prusse orientale. Depuis plusieurs années, une forte rivalité oppose la Russie et l'Allemagne de Guillaume II. Le géant russe, aux ressources humaines inépuisables et au développement économique récent, effraie les Allemands, surtout depuis l'alliance franco-russe de 1892 qui enserre l'Empire allemand dans un étau. L'offensive russe, forte de 500 000 soldats, est si rapide et si spectaculaire que le 14 août, elle atteint la Prusse orientale, menaçant la ville de Königsberg à la grande frayeur des Allemands. La nouvelle, en revanche, on s'en doute, soulève l'enthousiasme en France. Les Cosaques seront bientôt à Berlin, lit-on dans le journal. Analyse un peu rapide. En réalité, l'offensive russe est arrêtée net à la bataille de Tannenberg. Les Allemands, qui ont découvert les plans ennemis en interceptant des messages radio non codés, ont pu encercler les troupes russes et les anéantir. Pour les Allemands, la victoire inespérée et quasi miraculeuse de Tannenberg, menée par son héros Paul von Hindenburg, a sauvé la nation de l'invasion des Slaves barbares. Pour les Russes, en revanche, avec 50 000 morts et plus de 100 000 prisonniers, cette défaite, une des plus lourdes de l'histoire de l'armée du Tsar, est si humiliante que le général Alexandre Samsonov, qui commande la 2e armée russe, déclare, désespéré à ses officiers, « Le Tsar m'a fait confiance, comment puis-je lui faire face après un tel désastre ?» avant de se tirer un coup de revolver dans la tête. Après la défaite de Tannenberg, ce qui reste de combattants russes doit battre en retraite. Mais les Français s'interrogent alors. Où est donc le fameux rouleau compresseur russe et ses terribles Cosaques qui, espérait-il, devaient atteindre Berlin en quelques semaines et ainsi mettre fin à la guerre ? À la fin de l'année 1914, la guerre de mouvement sur le front de l'Est se transforme en guerre de position, comme sur le front de l'Ouest. Une guerre d'usure qui, avec ses millions de morts, de blessés et de prisonniers, va vite miner l'élan patriotique des Russes. À l'été 1915, l'armée du Tsar subira l'assaut conjoint des Allemands et des Austro-Hongrois et devra se retirer dans ce qu'on appelle la grande retraite. Mal préparée à un conflit de longue durée, l'armée russe manque vite cruellement de tout, de munitions, de ravitaillement et d'un commandement digne de ce nom. Les officiers supérieurs sont pour la plupart des aristocrates choisis pour leur rang plus que pour leurs compétences militaires et qui n'ont que faire de la vie de leurs soldats, des moujiks mal préparés, mal équipés, mal nourris, vêtus de loques et parfois sans fusil. Des hommes se mutilent pour ne pas monter au front, d'autres par milliers désertent. Tandis qu'à l'arrière, dans toutes les couches sociales, les civils, victimes de pénuries et redoutant une invasion allemande, n'en peuvent plus de cette guerre. Sur le front et à l'arrière, le pessimisme s'est emparé de la Russie.
Écoutez les gars, les Allemands sont à moins de 25 kilomètres. Non, ce n'est pas une blague. Ils avancent. Ils avancent à toute vitesse. Vous les avez laissés passer. Viennent pour prendre vos femmes, vos maisons,
c'est pas vrai.
Votre patrie.
Ta patrie, officier.
Oui, ma patrie. Et je suis fier de...
Comment se fait-il que l'armée du Tsar, qui s'était engagée la première dans la guerre avec de grandes offensives victorieuses, se retrouve dès 1915 dans l'incapacité de poursuivre le combat ? La Russie était-elle prête pour cette guerre ?
La Russie, l'armée russe est en grande difficulté en 1915, mais je relativiserai un tout petit peu, puisque en 1914, quand même, elle impressionne, elle fait peur, elle a des hommes, et ça c'est important. Je dirais que l'échec russe à Tannenberg est surtout le fruit de mauvais choix, c'est-à-dire que les Russes misent, contrairement à ce qu'on a longtemps pu dire, sur une offensive contre l'Autriche-Hongrie pour pouvoir aller en regardant les Balkans, en fait, voilà, et ils délaissent un peu finalement la Prusse orientale, donc ils n'y mettent que deux armées, et lorsqu'ils se retrouvent confrontés à une armée allemande en Prusse orientale, c'est parce que les deux chefs ne s'entendent pas, donc il y a un mauvais commandement, qu'ils échouent. S'ils avaient mis le paquet, entre guillemets, en Prusse orientale, les Russes auraient probablement déboulé en Prusse orientale, voire à l'horizon à Berlin, et la guerre se serait terminée probablement plus tôt. Alors, il est vrai que ça représente une catastrophe pour l'armée russe, cette défaite de Tannenberg, mais sur les autres fronts, l'armée russe n'est pas défaite. Elle est plutôt, même, elle s'en sort plutôt bien, contre les Turcs, notamment, et contre les Austro-Hongrois. Alors, c'est vrai qu'elle connaît des grosses défaites au cours de l'année 1915, mais il n'empêche qu'elle a un allié, qui s'appelle la France, et qui va l'aider, qui va lui fournir du matériel, de l'argent, des instructeurs, pour permettre à cette armée russe, qui est en grande difficulté en 1915, de remonter un peu la pente et d'être sur les rangs pour la fameuse offensive de Brusilov de 1916. Voilà. On est en Galicie, donc aujourd'hui, on va dire, dans l'ouest de l'Ukraine, grosso modo, pour dire les choses simplement. C'est une offensive qui est un succès au début. L'armée austro-hongroise est sur le point d'être détruite, tout de même. Et c'est une intervention de l'armée allemande qui permet de rétablir la situation et de transformer cette offensive, qui était une offensive qui marchait bien, en une bataille d'usure et d'attrition. Et là où la Russie n'arrive pas à tenir la route. Et quelque part, en soi, l'offensive Brusilov, qui était initialement un succès sur le terrain, mais qui devient un échec, eh bien, potentiellement, cette offensive, elle porte les fruits de la révolution quelques mois plus tard. Voilà, parce que les soldats sortent de là totalement éreintés.
Brusilov est devenu un héros, je crois, pour les soviétiques.
Oui, alors Brusilov, c'est un Personnage intéressant parce qu'il est donc officier noble dans l'armée russe et puis ensuite il va rejoindre les bolcheviks, voilà, et donc il va s'engager aussi pour l'Union soviétique. Il joue un rôle très important dans la guerre polono-russe des années 20, et puis ensuite il est critique à l'égard du régime, il est critique, donc il tombe un peu dans l'oubli, mais en revanche passe en offensive.
Oui, et parce que la mémoire de la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale en Russie n'est pas très importante.
N'a pas d'intérêt, c'est une guerre tsariste, une guerre d'impérialisme. Donc ça n'a aucun intérêt en fait pour les soviétiques. Par contre, Broussilov et son offensive, oui. Et d'ailleurs, dans les années à la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, on va réactualiser en Union soviétique Broussilov, et on va même essayer de montrer qu'il y a des liens entre ce qu'il avait imaginé en 1916 dans son offensive et toutes les offensives soviétiques de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est intéressant. Donc c'est un personnage qui aujourd'hui en fait a retrouvé une position intéressante. C'est l'un des rares généraux et maréchaux russes qui est encore connu aujourd'hui en Russie en fait. Voilà.
Michael Bourlet, la situation tout de même en Russie va se dégrader au point qu'en 1917 les Russes vont sortir de la guerre. Il y aura le traité de Brest-Litovsk en mars 1918 par lequel l'Empire allemand se retrouve agrandi d'un immense territoire, et les Allemands, donc libérés à l'est aussi de la guerre, peuvent se concentrer sur le front de l'ouest. Quel rôle a joué le front de l'est dans l'issue de la guerre ? C'était quand même un sacré lâchage pour les franco-britanniques.
Au même moment, les Américains entrent en guerre aussi. Les Allemands retirent effectivement des divisions pour les emmener sur le front de l'ouest. Mais ça prend du temps, il faut transporter tous ces hommes, et puis je dirais que la situation n'est pas apaisée sur le front, l'ancien front russe, il y a toujours des tensions, il y a toujours la guerre, donc il y a des Français, des Britanniques qui sont envoyés aussi dans cette région pour contrer la révolution et aider les Russes blancs.
Parce qu'après il y a la guerre civile,
donc,
qui s'enchaîne.
Oui, le poids n'est pas déterminant, mais il n'empêche que ça ne joue pas un rôle extraordinaire, à mon sens, sur l'issue de la guerre à l'Ouest. Évidemment que les troupes allemandes qui vont être libérées de l'Est, qui arrivent progressivement au cours de l'année 1918, c'est des renforts intéressants pour les Allemands. Mais à mon avis, on ne peut pas dire qu'ils sont décisifs, en fait.
Au début de l'année 1915, le front de l'Ouest s'enlise dans une guerre de tranchées qui semble bloquée et sans issue. Pour tenter de reprendre une guerre de mouvement sur de nouveaux champs de bataille, les alliés franco-britanniques décident d'intervenir en Orient. De mars 1915 à janvier 1916, ce sera la bataille des Dardanelles, qu'on appelle aussi bataille de Gallipoli. Un projet ambitieux qui, nous le verrons, tournera à l'un des pires désastres de la Première Guerre mondiale. L'idée est d'envoyer des navires en Méditerranée pour prendre le contrôle des Dardanelles, un détroit d'une soixantaine de kilomètres de long qui relie la mer Égée à la mer de Marmara, et aussi de s'emparer de Constantinople, la capitale de l'Empire ottoman, qui depuis 2 mois est l'allié de l'Allemagne. Outre l'avantage de vaincre un ennemi, la prise des détroits entre la Méditerranée et la mer Noire permettrait aux franco-britanniques de rétablir les liaisons maritimes avec leur allié, la Russie. Et pourquoi pas, en prenant de revers l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, de mettre un terme à la guerre.
Nous devons tout mettre en œuvre pour que ce soit un succès. Parce que si c'est un succès, nous aurons Constantinople dans une semaine. Et la Turquie sera à genoux. Tout est prêt pour vous, Kevin ?
Oui, tous les canons sont en position. À l'aube, le bombardement commencera et nous l'arrêterons à 4h30, très précise.
Nous préparons à attaquer les positions turques. Et nous savons que notre pays sera fier de nous.
Côté britannique, un des inspirateurs du projet n'est autre qu'un certain Winston Churchill, qui, en ouvrant ce nouveau front, souhaite, je cite, « que les soldats cessent de mâchouiller du barbelé dans les Flandres ». Âgé de 40 ans en 1915, Churchill occupe depuis 4 ans le poste de premier lord de l'amirauté, version britannique de ministre de la marine. Un poste très important. Rappelons-le, à l'époque, l'Empire britannique domine encore les mers. Churchill piaffe d'impatience de voir la Royal Navy intervenir dans le conflit. L'occasion se présente donc enfin. Mais les franco-britanniques, sous-estimant la capacité de résistance de l'Empire ottoman, qualifié depuis le 19e siècle d'homme malade de l'Europe, n'accordent que des moyens limités à cette opération, qualifiée par le ministre de la guerre britannique, Lord Kitchener, de croisière en mer de Marmara. Une erreur dont ils feront bientôt les frais. Le 18 mars 1915, à 11h du matin, une escadre de 18 cuirassés s'engage dans le détroit des Dardanelles. Mauvaise surprise, ils sont accueillis par des mines dérivantes qui vont faire des ravages. Plusieurs navires français et britanniques sont coulés ou sévèrement endommagés. Un mauvais coup qui, cependant, n'arrête pas l'opération. Un mois plus tard, le 25 avril, des milliers de soldats britanniques, français, australiens et néo-zélandais, parmi lesquels des Indiens, des Maoris, des Marocains, des Sénégalais, débarquent sur la presqu'île de Gallipoli qui borde le détroit des Dardanelles. Mais les stratèges n'ont pas prévu que ces hommes vont débarquer sur des plages étroites, surplombées par des falaises où les attend le déluge de feu des tireurs turcs.
Dites au major Barton que l'attaque doit être poursuivie.
Colonel, vous ne vous rendez pas compte? Ils se font descendre avant d'avoir fait 5 mètres.
Nous devons poursuivre notre attaque, quoi qu'il en coûte.
Ce qui devait être une guerre de mouvement devient vite une guerre de siège avec ses tranchées, comme sur le front de l'Ouest. Un enfer qui va durer des mois. Surnommé le cul-de-sac de la mort par le reporter de guerre Albert Londres, présent aux Dardanelles. Et comme on ne secourt pas les blessés et qu'on ne retire pas les morts, les plages se transforment en un immense charnier dont l'odeur insupportable parvient jusqu'aux navires au large. Une épidémie de typhoïde et de dysenterie se déclare dans les troupes. Il faut attendre l'automne 1915 pour que les franco-britanniques reconnaissent l'échec de l'opération et ordonnent l'évacuation des troupes. Au total, la bataille des Dardanelles coûte la vie à plus de 100 000 hommes, pour moitié des Ottomans et pour moitié des Français et des Britanniques, en englobant les Australiens et les Néo-Zélandais.
C'est une offensive qui a été mal préparée, à laquelle les Britanniques notamment ont accordé très peu de moyens. Voilà. Donc ce qui fait que lorsque les hommes débarquent, eh bien, il n'y a pas assez de force, de puissance. Ce qui devait être une course folle vers Constantinople, eh bien, se transforme en une guerre d'attrition, une guerre de position, d'usure, qui condamne cette opération amphibie d'abord, et ensuite cette opération terrestre. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, les Britanniques ont sous-estimé leur adversaire. Il y a un rapport, en fait, encore de dominants, d'Européens, qui considèrent, en fait, que les Ottomans sont faibles et qu'on va les détruire facilement. Ce qui n'est pas le cas, ce qui est une surprise.
C'est vrai que l'Empire Ottoman est en état de faiblesse, mais il y a des militaires. Il y a un certain Mustafa Kemal, futur dirigeant de la Turquie, qui est à la manœuvre.
Et il n'y a pas que des Turcs non plus qui se battent. Il y a aussi des Kurdes, il y a aussi des Arabes qui sont affectés dans l'armée ottomane et qui se battent. Après, la mémoire turque gardera le souvenir uniquement des soldats d'origine turque. Et on écartera, en fait, ces minorités, entre guillemets, de l'Empire ottoman qui servait aussi.
Elle oubliera aussi le génocide arménien.
Ouais, et au passage, voilà. Et d'ailleurs, dans les commémorations du centenaire, Erdogan a fait en sorte de rassembler tous les belligérants dans un symbole de paix. Et ça, c'est une tradition ancienne en Turquie. Hein, l'idée d'associer, ça remontait déjà à Mustafa Kemal, l'idée d'associer les Néo-Zélandais, les Australiens et les Turcs pour commémorer cette bataille. Mais au moment du centenaire, le président turc fera bien d'oublier quand même dans son message de paix les Arméniens, en fait.
Je crois qu'il y avait aussi une méconnaissance du terrain. C'est quand même fou d'envoyer des hommes se jeter sur des plages étroites et surplombées par des falaises où, évidemment, les Turcs sont amassés et tirent comme sur des lapins.
Amassés, oui et non, parce qu'il y a des secteurs où il y avait très peu de soldats turcs, parce que les Turcs n'avaient pas aussi une armée extensible. Hein, donc, il y avait des secteurs qui n'étaient pas couverts. Mais les opérations de débarquement ont tellement été longues, parfois très procédurières. Ça laisse le temps à l'adversaire, donc aux Turcs, de déplacer des soldats et de garnir, en fait, des nouvelles positions pour rejeter, tenter de rejeter l'assaillant à la mer. Voilà. Mais on ne fait jamais à la guerre, on ne fait jamais une opération militaire pour rien. Donc il y a toujours un objectif, mais après, bon, voilà, il y a toujours un décalage entre ce qu'on imagine et ce qui se passe réellement sur le terrain.
Voilà. Michael Bourlet, et Churchill, quelle est sa part de responsabilité dans ce désastre? Je crois que sa femme disait, les Dardanelles l'ont hanté pour le restant de ses jours, il y a toujours cru, quand il a quitté l'amirauté, il se croyait fini.
Ouais, alors il est responsable, il a joué un rôle puisque c'est lui qui a ordonné ça. Alors c'était pas son coup d'essai, hein, parce qu'il avait déjà aussi organisé une opération du même type en amphibie pour sauver l'armée belge en 1914 à Anvers. Voilà, ça n'a pas bien marché. Et là, il renouvelle. Derrière tout ça, il y a aussi un peu de rivalité franco-anglaise parce que les Français avaient un autre projet dont on reparlera plus tard, c'est-à-dire l'Orient. Et puis les Français sont quand même préoccupés par l'Artois, par la Champagne en France. Donc ils laissent ça aux Britanniques, ils voient louer quelques troupes, quelques divisions françaises, mais on laisse la main à Churchill qui pilote tout ça en partie, et c'est lui qui est en partie responsable, et il s'en voudra beaucoup après, parce que c'est une catastrophe quand même. Hein.
Il y aura une crise politique d'ailleurs en Angleterre.
À Londres, ouais. Bien sûr, oui.
Il va porter le chapeau un peu pour les autres.
Lui va repartir. Alors lui, il repart au front, il repart sur le champ de bataille dans les Flandres avec son unité, et c'est un séisme, hein. D'autant plus qu'il y a d'autres séismes même au même moment dans l'Empire ottoman. L'armée britannique est vaincue aussi en Irak contre des Turcs, donc dans le fameux siège de Kout. Hein. Donc c'est pour les Britanniques, c'est quand même des séismes très très forts, politiques, militaires.
Cette bataille des Dardanelles est importante aussi pour la mémoire des Australiens, des Néo-Zélandais qui se sont engagés dans cette guerre d'une manière assez importante, qui ont été envoyés. Mmh. Et la mémoire, je crois, est très importante. Cette date du 25 avril...
C'est intéressant. C'est vraiment une particularité de la Première Guerre mondiale. C'est que pour tous ces nouveaux pays, entre guillemets, la Première Guerre mondiale est fondatrice. C'est le cas pour les Canadiens à Vimy, dans le nord de la France. C'est le cas pour les Néo-Zélandais et les Australiens, avec l'Anzac Day, qui est commémoré chaque année. Hein,
le 25 avril.
Le 25 avril, et qui est commémoré partout, et qui aujourd'hui a une dimension, je dirais, plus générale, puisque ça regroupe toutes les batailles dans lesquelles les Néo-Zélandais et les Australiens ont été engagés. Mais c'est une bataille qui donne, qui fonde, qui est un socle, en fait, pour ces pays aujourd'hui, puisqu'elle donne naissance à ces pays, enfin, qui existent vraiment. Ils ont versé leur sang au combat. Voilà.
Est-ce qu'il reste des monuments aux Dardanelles?
Oui, il reste beaucoup de monuments.
Des cimetières,
Alors, il y a des cimetières assez étonnants. Il y a tout un tas de monuments, évidemment, français, britanniques, néo-zélandais, turcs aussi, hein, avec un monument qui est assez étrange, donc, sur la péninsule, où on voit des soldats turcs en statue, qui ont été placés sur la plage, hein, pour montrer la résistance des Turcs, parce que pour eux, c'est une grande victoire. Et encore aujourd'hui, c'est vu comme ça, quand même.
She's out and only, and that is all. She's out and only, and that is all. When men meet her, they're bound to fall. Until her mommy doesn't sleep alone. She's out and only, and that is all. She's out and only, and that is all. When men meet her, they're bound to fall. Until her mommy doesn't sleep alone.
To the booth.
That is all. She's out and only, and that is all. When men meet her, they're bound to fall. Until her mommy doesn't sleep alone. She's out and only, and that is all. She's out and only, and that is all. When men meet her, they're bound to fall. Until her mommy doesn't sleep alone.
To the booth.
Sur France Inter.
Qui se souvient du front d'Orient pendant la Première Guerre mondiale. Il faudra attendre 1996 pour qu'un film français de Bertrand Tavernier, Capitaine Conan, ravive un peu en France le souvenir de cette guerre oubliée. Un film inspiré du roman éponyme de Roger Vercel, un Français qui était engagé sur le front d'Orient. Ces combats qui ont opposé les armées alliées aux troupes turques, austro-hongroises, allemandes et bulgares de 1915 jusqu'en 1919, c'est-à-dire au-delà de l'armistice du 11 novembre 1918. Alors que sur le front de l'Ouest, les armes s'étaient enfin tues, dans les Balkans, donc des soldats se battaient encore, parmi lesquels de nombreux Français. Une guerre qui a laissé des blessures profondes dans les Balkans encore aujourd'hui. Malgré l'échec de la bataille des Dardanelles, les Alliés, à l'automne 1915, n'abandonnent pas l'idée de créer un contre-feu en Orient dans le but de soulager la Russie et de venir en aide à la Serbie qui vient d'être envahie par les armées austro-allemandes et bulgares. Autant l'expédition des Dardanelles a été initiée par les Britanniques, autant celle de Salonique est une idée avant tout française. Le 5 octobre 1915, les milliers de soldats français et britanniques de l'armée d'Orient, commandés par le général Maurice Sarail, débarquent à Salonique, ville portuaire grecque au nord de la mer Égée, appelée aujourd'hui Thessalonique. Plus de 400 000 soldats alliés passeront par ce port. Très vite, les franco-britanniques lancent une opération de sauvetage de l'armée serbe qui a battu en retraite dans les montagnes du Monténégro et de l'Albanie. Un journaliste français de 31 ans est là, envoyé par le Petit Journal pour son premier grand reportage international. Albert Londres, qui accompagne la difficile et lente contre-offensive franco-britannique pour desserrer l'étau germano-bulgare dans lequel est prise l'armée de Serbie. Mais l'opération est un échec. Les Alliés se replient alors sur Salonique, qui devient pendant plusieurs années un camp retranché pour préparer la revanche. Les conditions de vie des soldats y sont effroyables. Ceux qui auront la chance d'en revenir se souviendront des plaines insalubres autour de la ville, du paludisme, du scorbut et de la dysenterie qui ont fait des ravages dans les armées alliées. C'est pourtant de Salonique qu'à l'automne 1918, l'armée d'Orient reprend l'avantage. D'abord contre la Bulgarie, qui signe un armistice en septembre 1918, puis contre l'Empire ottoman, qui en octobre se retire de la guerre. Avec l'écroulement de la Bulgarie, puis celui de l'Empire ottoman, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne, désormais isolées, sont contraintes d'arrêter le combat. C'est donc finalement des Balkans, un théâtre de guerre qu'on disait secondaire, qu'allait venir la victoire.
Mes amis, j'ai à vous annoncer une grande nouvelle. Nous sommes vainqueurs sur tous les fronts. Car depuis le 11 de ce mois, la guerre est terminée.
Dernière ordre du jour du général Pétain. Le 52e mois d'une guerre sans précédent dans l'histoire. L'armée française, avec l'aide de ses alliés, a consommé la défaite de l'ennemi.
Michael Bourlet, comment expliquer que ce front d'Orient, qui a vu passer au moins 400 000 soldats alliés à Salonique, qui a eu un rôle important, même décisif, soit si peu connu ni reconnu ?
Alors, encore une fois, il y a le tropisme français, c'est-à-dire qu'on regarde le sanctuaire, on défend la France.
Le précaré.
Et Verdun, ben, c'est le bastion et tous les champs de bataille de l'Est et du Nord. Et donc, les Français, tout ce qui est projeté, tout ce qui est outre-mer, n'y accordent pas tellement d'intérêt. Pourtant, il y a quand même 400 000 soldats français qui sont allés, hein, voire probablement plus, si on compte les marins, etc. Et je pense qu'il y a aussi le fait que l'extrait correspond bien à ça, en fait. C'est une armée qui est à bout de souffle, quand même, cette armée d'Orient, parce qu'elle est elle est très loin de ses bases. Elle est tributaire d'un ravitaillement qui vient par la mer, et donc c'est très compliqué. Il n'y a pas de volonté politique, c'est-à-dire qu'il y a cette percée qui est effectuée et qui provoque l'effondrement des empires centraux. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On n'a pas assez de troupes là-bas. Et les hommes sont pressés de rentrer, ils savent que c'est la paix, que la guerre est terminée, et on les maintient là-bas, donc ils se demandent pourquoi ils veulent rentrer. Donc si vous voulez, il y a tous ces éléments qui font que c'est quelque chose qui n'a pas intéressé, et qu'on a préféré valoriser Verdun, parce que c'était glorieux, on défendait le sol national.
Ça a dû être difficile pour les hommes, justement, les soldats qui revenaient des Balkans, on les regardait un peu, parfois, comme des planqués, oui, en comparaison des souffrances vécues par ceux du front de l'Ouest. Pourtant, il y a eu quand même des combats meurtriers, sans parler des morts, donc je l'ai dit, victimes du froid et des maladies.
Oui, ce sont des champs de bataille terrifiants. Il y a aussi des tranchées hein, sur ce front. On se fait la guerre, et on voit très bien ça dans Capitaine Conan, on se fait la guerre comme sur le front de l'Est. Les hommes souffrent de maladies, on est loin. En France, même si on est au front, à Verdun, on peut avoir l'espérance d'avoir une permission et de rentrer chez soi, ce qui n'est pas le cas pour tous ces hommes. Donc c'est vrai que ces hommes ont vécu quelque chose, une expérience horrible.
Je signale qu'à Marseille, il existe un monument en hommage aux morts de l'armée d'Orient et des terres lointaines, donc de la Première Guerre mondiale, un monument très imposant qui est situé sur la Corniche, face à la Méditerranée et aux îles du Frioul. De la Première Guerre mondiale, il existe un autre théâtre d'opération dont on parle rarement en France, sur un front lui aussi considéré à l'époque par les belligérants comme secondaire, mais qui a marqué profondément la mémoire collective italienne, la bataille de Caporetto, en octobre-novembre 1917. Une bataille livrée dans les Alpes, un cadre et un type de combat assez particulier donc. D'abord, rappelons que lorsque la guerre éclate en 1914, l'Italie choisit de rester neutre, avant finalement, au printemps 1915, de s'engager auprès de la France, de la Russie et du Royaume-Uni. Son principal adversaire dans cette guerre est l'Autriche-Hongrie. Mais à l'automne 1917, profitant que la Russie est sortie du conflit, les Autrichiens et les Allemands s'associent et décident de lancer, avant l'hiver, une grande offensive sur l'Italie, et pour ce faire, mobilisent en secret de gros moyens en hommes et en matériel. Le 24 octobre 1917, vers 2h du matin, une pluie d'obus s'abat sur une position italienne mal défendue, à Caporetto, dans les Alpes du nord de l'Italie, un village de montagne situé aujourd'hui en Slovénie. Les Italiens, surpris par l'attaque, mal préparés, asphyxiés par les gaz, aveuglés par le brouillard et la neige et en sous-effectif, ne peuvent rien face à l'ennemi. La bataille se termine le 12 novembre 1917 par la défaite cuisante de l'Italie. Même s'il y aura d'autres batailles et même une victoire, la défaite de Caporetto est restée un traumatisme national.
Cittadini, abbiamo avuto il privilegio di ospitare i gloriosi soldati.
En 1959, le réalisateur Mario Monicelli tournera un film, La Grande Guerra. À la fin du film, un comité d'accueil patriotique, un peu ridicule, avec chapeau melon et flonflon, prononce un discours ronflant, demande à la foule d'exprimer sa reconnaissance aux glorieux soldats qui, à Caporetto, ont donné leur sang pour la patrie. Et c'est le choc quand ces soldats arrivent, du moins ce qu'il en reste, épuisés, dépenaillés, mutilés. Aujourd'hui encore, en Italie, on utilise le mot Caporetto pour désigner une défaite ou un désastre, même au football. Michael Bourlet, pourquoi cette bataille de Caporetto est-elle si importante ou elle l'a été dans la mémoire collective italienne ?
Parce que c'est un désastre, un immense désastre militaire, qui en plus a fait naître une légende, hein, la légende du soldat italien lâche, le soldat italien gréviste aussi, hein, ce qui n'est pas vrai, hein, parce que ces soldats n'ont pas eu de chance, ils ont pris une offensive puissante, violente, qui a totalement détruit les unités italiennes qui étaient en première ligne. Ce désastre de Caporetto a donné naissance à cette légende du soldat peu courageux italien. Mais en même temps, après la guerre, on a oublié, parce qu'après Caporetto, les Italiens font un peu le ménage dans le commandement, et puis ils prennent des bonnes décisions, les alliés viennent, les Français et Britanniques envoient des troupes en renfort, et pour un peu remonter la pente. Et donc, si vous voulez, après la guerre, on va oublier cet épisode de Caporetto, et surtout les fascistes, qui vont plutôt, eux, centrer l'effort de mémoire sur les soldats qui se sont battus après Caporetto, ou là où ils enregistrent des succès, en fait. Voilà. C'est juste depuis quelques années, à la lumière de recherche, qu'on s'intéresse à nouveau à cette bataille de Caporetto.
Il y avait beaucoup de soldats italiens qui étaient engagés dans cette bataille de Caporetto et qui venaient du sud de l'Italie, qui ne connaissaient absolument pas ce pays,
qui
se sont retrouvés dans les montagnes et qui ne comprenaient rien, ne savaient pas pour qui et pourquoi ils se battaient.
Oui, ça c'est un paramètre qu'on retrouve dans toutes les armées du monde, hein, quasiment. Hein. L'armée française, c'est la même chose. Hein. Mais là, c'est vrai que ces soldats qui n'étaient pas non plus, qui n'avaient pas l'instruction, c'est-à-dire qu'on avait une forme de commandement qui était très descendant dans l'armée italienne, le chef avait toujours raison et le soldat, en fait, en base, ne devait qu'obéir avec peu de marge de manœuvre, ce qui n'était pas le cas en face, du côté allemand ou du côté austro-hongrois.
Il y a des écrivains qui se sont intéressés à cette histoire. Il y a Ernest Hemingway qui raconte la bataille dans L'adieu aux armes et Curzio Malaparte et aussi l'écrivain italien dans Viva Caporetto qui est plutôt un pamphlet contre cet engagement. En 1914, quand débute la guerre, pratiquement tout le continent africain est colonisé par les Européens. La France, le Royaume-Uni, le Portugal, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne se sont partagés goulûment le gâteau. Seuls deux pays échappent encore à la colonisation, le Libéria à l'ouest et l'Éthiopie à l'est. L'Afrique et les Africains, auxquels on ne demande évidemment pas leur avis, sont impliqués dans la guerre d'abord parce qu'ils fournissent aux belligérants des matières premières, des soldats et de la main-d'œuvre. Mais aussi, on le sait moins, parce que durant toute la guerre, des combats sont livrés en Afrique. Chose incroyable même, les premiers coups de feu de la guerre 14-18 sont donnés en Afrique. À peine en effet la guerre est-elle déclarée en Europe, que sur place, les colons français et britanniques se mettent en tête de s'emparer des quelques colonies allemandes en Afrique.
La République a besoin de vous.
Allez, on va approcher la table.
Au nom de la France, je fais appel à tous les indigènes en bonne santé, de sexe masculin. Je voudrais se porter volontaire à l'égard de la France pour la durée des hostilités. Les registres sont ouverts, on s'unit.
Dès le 6 août 1914, les Français et les Britanniques attaquent et envahissent le Togoland. Cette colonie allemande située en sandwich entre le Dahomey français, aujourd'hui le Bénin, et le Gold Coast britannique, actuel Ghana. Une bataille éclair, puisque les troupes allemandes, très réduites sur place, capitulent au bout de 2 semaines. Il faudra en revanche 1 an et demi aux Franco-Britanniques pour conquérir le Cameroun, autre colonie allemande. Le bilan humain sera lourd. Chez les Alliés, la mort de plus de 4000 soldats, en grande majorité des Africains. La guerre se poursuit contre la 3e colonie du Reich, le sud-ouest africain allemand, l'actuelle Namibie. Un territoire immense, aride et souvent désertique, de plus de 800 000 km². En septembre 1914, les Britanniques, soutenus par les troupes d'Afrique du Sud, traversent le fleuve Orange, qui marque la frontière, et entament, à pied ou à cheval, une marche épuisante à travers le désert du Kalahari. Arrivés à Zandfontein, l'unique point d'eau de la région, ils sont attaqués et défaits par les Allemands. Un succès qui n'empêche pas leur capitulation 9 mois plus tard. La 4e guerre, celle contre l'Afrique orientale allemande, actuellement la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi, est une autre paire de manches. Une campagne difficile et éprouvante pour les Britanniques, les Belges et les Portugais, qui ne s'achèvera qu'à la fin novembre 1918, donc après la signature de l'armistice du 11 novembre. Pendant 4 ans, une longue guerre de harcèlement faite de raids, d'attaques surprises, d'embuscades. Une guerre de guérilla où va s'illustrer un étonnant personnage qui donnera du fil à retordre à ses ennemis en leur résistant pendant plus de 52 mois, le commandant allemand Paul von Lettow-Vorbeck.
Le colonel von Lettow est notre plus grand ennemi et le meilleur stratège de toute l'Allemagne. Jusque-là, cet homme était un vrai courant d'air. Ceci pourrait être l'occasion que nous attendions. D'après mes sources, il se trouverait à 52 km au sud-ouest de notre position ici, près de ce lac.
Je doute fort qu'une telle occasion s'en présente.
La légende de ce combattant apparemment insaisissable, réputé pour la rapidité et l'ingéniosité de ses manœuvres, et qu'il ne s'est jamais avoué vaincu, sera après l'armistice une relative consolation pour l'Allemagne vaincue.
Alors c'est un officier allemand qui connaît très bien l'Afrique et qui va fonder sa stratégie sur 3 piliers, ses hommes, son commandement et son adversaire. Et donc, à partir de ces 3 ingrédients, il va réussir à mener une lutte où il va être insaisissable pendant toute la guerre. C'est lui qui tire le dernier coup de fusil de la Première Guerre mondiale, au-delà du 11 novembre. Et il va infliger des défaites lourdes aux Britanniques et aux Indiens. Il faut en parler aussi parce qu'en fait, on a un corps de l'armée des Indes qui participe en fait aux
campagnes. Qui sont avec les Britanniques,
j'imagine. Qui sont avec les Britanniques, qui participent à toutes ces campagnes et qui subissent des défaites très lourdes.
Voilà. Et quand vous parlez des hommes de cet officier allemand, j'imagine que ce sont des Africains qui ont été embauchés.
Des Africains. Et des Allemands. Dans chaque armée en Afrique, il y a un noyau d'Européens et des Africains. pour la plupart des volontaires qui sont engagés en fait dans l'armée et d'autres qui sont plus ou moins de force, et puis des travailleurs. Alors lui, Letov Forbeck va développer une manière de commander très originale. Il est autoritaire, mais il va aller vers ses hommes, et notamment ses soldats africains qui, avec lesquels il va toujours garder des contacts, y compris après la guerre. Et donc il va apprendre leur langue, il va vivre avec eux, et donc les fidéliser, ce qui n'était pas forcément le cas dans l'armée britannique. Lui va réussir à créer une forme de cohésion dans cette armée, quoi.
On parle jamais de la Première Guerre mondiale en Afrique, mais ces combats ont eu quand même une réelle importance. Elles ont permis aux Alliés de récupérer des colonies allemandes. Puisqu'en 1918, il n'y a plus d'empire colonial allemand.
Il n'y a plus d'empire colonial allemand en Afrique et aussi en Asie, en Océanie. Hein. Alors en Afrique, ce sont les Français et les Britanniques qui se les partagent pour l'essentiel. Alors ça ravive aussi des tensions, parce que par exemple pour le Cameroun, bah, Français et Britanniques veulent leur morceau de Cameroun. Donc là, à nouveau, on est alliés. Mais là, il y a des tensions parce que il y a des rivalités coloniales. Mais pour les Britanniques, ça permet quand même de construire une ligne qui va quasiment de l'Égypte à l'Afrique du Sud, qui est entièrement britannique. Donc une transversale qui est entièrement britannique, ça c'est quand même un point important pour après la guerre.
Michael Bourlet, dans votre livre, vous parlez d'autres théâtres d'opérations périphériques de cette Première Guerre mondiale. On n'a pas pu tous les évoquer ici, bien sûr. La bataille de Romani dans le Sinaï, Sarikamis dans le Caucase, la guerre sous-marine, les combats en Mésopotamie et même des combats en Chine. Vous racontez qu'à Tsingtao, donc qui n'est pas qu'une bière, c'est un port colonisé par les Allemands en Chine qui est pris d'assaut par les Japonais.
C'est assez étonnant. Quoi. Alors c'est plutôt connu dans le monde des militaires, parce qu'on est dans une opération amphibie, puisqu'il y a des Japonais qui débarquent. On est aussi dans une opération de siège d'une ville, Tsingtao, et puis on est dans une prise de ville, une prise d'assaut. Alors, on en parle peu, finalement, parce qu'on ne connaît pas très bien, mais les puissances européennes avaient des comptoirs en Chine, hein, la France en avait aussi, et Tsingtao était le comptoir allemand. Et les Japonais vont en profiter pour mettre la main sur ce comptoir facilement. Ils vont même avoir des soldats anglais sous leurs ordres. Ça, c'est assez étonnant, on en parle très peu aussi. Hein. Mmh. Et c'est un peu le signe de leur volonté impérialiste en Chine et en Asie, en fait.
Et il y a aussi des combats en Océanie, vous dites ?
Oui, des combats en Océanie, alors des petits combats.
Entre qui ?
Alors, entre Japonais, Néo-Zélandais, Australiens, contre des Allemands.
Des Allemands en Océanie.
En Océanie, parce qu'il y avait des îles, un certain nombre d'îles qui étaient en fait des îles colonisées par les Allemands. Alors c'est intéressant parce que je lisais le livre de Bruno Cabane, Fantôme de Peleliu, et c'est intéressant parce qu'il évoque cette histoire. Parce qu'il y a eu des petits débarquements où on a chassé finalement les Néo-Zélandais ou les Japonais ont chassé une dizaine d'Allemands qui se trouvaient là, quoi. 20 ans plus tard, on se retrouve dans les combats de Peleliu qui sont des sommets de l'enfer, enfin, tout ce qu'on peut imaginer dans une guerre.
Est-ce qu'il y a des zones du monde qui ont été épargnées par la Première Guerre mondiale, Michael Bourlet ?
Oui, on peut dire que le continent américain l'a été épargné. Et puis le centre de la Russie, peut-être
La Sibérie.
Encore qu'il y a eu des opérations en Sibérie. Hein. Hugo Pratt nous le rappelle, hein, nous montre ses combats, mais plutôt vers le nord, en fait, c'est-à-dire vers Bering, ça, là, c'est une zone où il n'y a pas de combat. Et puis sinon, les mers, eh bien, les pôles n'ont pas été concernés par les combats. Mais en revanche, toutes les mers, oui, tous les océans, ouais. Oui.
Et puis cette guerre était mondiale aussi par l'origine des combattants, hein, des Indiens, des Chinois, qui n'étaient pas forcément affectés au front, des Amérindiens du Canada et des Américains, des Antillais et des Guyanais. Voilà.
Oui. C'est intéressant parce que je viens de Bretagne et quand on discute avec les Bretons, ils ont découvert d'autres personnes qui venaient de partout du monde entier. En fait, on le retrouve dans les cimetières, la trace de ces gens qui venaient de partout.
Pendant la Première Guerre mondiale.
Pendant la Première Guerre mondiale. Mais eux ont aussi été découverts par d'autres. Et donc, il y a des mélanges qui se sont opérés, des rencontres qui se sont faites. Ça, c'est aussi un immense brassage, la Première Guerre mondiale.
Merci beaucoup, Michael Bourlet. De vous, on peut lire La Grande Guerre hors des tranchées, Tannenberg, Caporetto, Tsingtao, Jutland, Togoland, édité chez Perrin avec le ministère des Armées. C'est la fin pour aujourd'hui du Fil de l'Histoire. L'émission a été réalisée par Claire Destacan, assistée d'Anne-Cécile Perrin et Frédéric Martin. À la technique, Alex Olaré-Ouajou-Otinois. Vous avez pu entendre Bukavina Original de Chantel et Poussière d'or de Stéphane Escher, des titres choisis par Jean-Baptiste Audibert. Vous pouvez vous abonner au podcast du Fil de l'Histoire sur l'appli Radio France. J'attends vos commentaires sur la page de l'émission ainsi que sur Facebook. Rendez-vous lundi pour une nouvelle série du Fil de l'Histoire consacrée à une grande reine du XVIIe siècle, la mère de Louis XIV, qui joua un rôle clé au moment de la Fronde, Anne d'Autriche, mère de roi ou régente absolue. Je recevrai l'historien Joël Cornette. À lundi, 14h04.